Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bourumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mercredi 17 août 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran ne renoncera jamais à ses lignes rouges dans les pourparlers sur le nucléaire. Les positions turques à l'intérieur de la Syrie ont été attaquées par l'armée syrienne. Et le 42e sommet de la SADC s'ouvre à Kinshasa. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un haut responsable de la sécurité iranienne a réaffirmé mardi 16 août que l'Iran n'avait pas renoncé et ne renoncerait jamais à aucune de ses lignes rouges dans les pourparlers relatifs à la relance de l'accord sur le nucléaire de 2015. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Ali Shamkhani, a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des membres de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. Qu'un accord soit conclu ou non, les intérêts de la nation iranienne seront sauvegardés, a souligné M. Shamkhani. Commentant la politique gouvernementale qui consiste à refuser de lier l'économie iranienne au pourparlers sur le nucléaire, il a déclaré que la loi adoptée par le Parlement en décembre 2020 donnait au gouvernement les prérogatives nécessaires pour faire face aux sanctions américaines et protéger les intérêts de l'Iran. Tard lundi, l'Iran a déclaré avoir fourni à l'Union européenne sa conclusion finale sur les pourparlers visant à relancer le plan global d'action conjoint, soulignant que c'est maintenant au tour des États-Unis de faire preuve de réalisme et de flexibilité s'ils veulent vraiment qu'un accord final soit trouvé. Nous avons reçu la réponse iranienne lundi soir. Nous l'étudions et consultons les autres participants au plan global d'action conjoint et les États-Unis sur la voie à suivre, a déclaré la porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, Nabila Masrali. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a également déclaré le même jour que si les États-Unis montraient une réaction réaliste et flexible à l'offre de l'Iran, nous serions sur le point d'être d'accord. Les médiateurs de l'Union européenne avaient fait circuler une proposition finale pour sauver l'accord nucléaire iranien la semaine dernière. Le bloc a décrit ce texte comme le dernier espoir de sauver un accord censé limiter l'activité nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions, y compris sur son secteur énergétique. Le pétrole supplémentaire en provenance d'Iran pourrait apporter un soulagement indispensable à une économie mondiale frappée par la flambée des coûts de l'énergie. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 20,8% à Londres pour s'échanger mardi un creux de 6 mois, les commerçants pesant le ton plus productif des pourparlers sur l'Iran. Les positions turques à l'intérieur de la Syrie ont été attaquées par l'armée syrienne à la suite de 2 attaques aériennes de la Turquie qui ont ciblé des endroits distincts à travers le pays arabe. Les forces armées syriennes ont mené la contre-attaque mardi, causant des pertes matérielles et humaines dans certains sites militaires turcs à l'intérieur de la Syrie, ont rapporté les médias d'État syriens. L'armée a également ciblé les positions de certains groupes armés et endommagé leurs centres d'entraînement. Les représailles sont intervenues après qu'une frappe aérienne turque a tué au moins 3 soldats syriens et en a blessé 6 autres près de la ville d'Alep, dans l'ouest de la Syrie. La télévision d'État syrienne a rapporté mardi que des avions de guerre turcs ont ciblé des postes militaires syriens dans la campagne d'Alep. De 14h37 à 15h heure locale, 11h37, 12h GMT. Décrivant l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis comme des marionnettes entre les mains des États-Unis, Mahdi al-Mashhad, chef du Conseil politique suprême du Yémen, a déclaré que les armes américaines livrées aux mercenaires de la coalition saoudo-émiratie ne leur serviraient à rien devant les frappes aux missiles et aux drones de la résistance yéménite. Il a fait ce commentaire lors d'un grand défilé militaire des forces de réserve et d'intervention centrale dans le gouvernorat yéménite d'Amran, tenu mardi 16 août, en présence de Mahdi al-Mashhad, le chef du Conseil politique suprême du Yémen et d'autres hauts responsables yéménites. Il a ajouté que le soi-disant fracas des manœuvres américaines en mer Rouge et dans le golfe d'Aden n'était même pas capable de créer un iota de peur auprès des combattants yéménites avant d'avertir l'ennemi de scénarios surprenants de la résistance yéménite dans les jours à venir. Qualifiant de longue évasion l'exercice conjoint américano-saoudien qui se déroule à Yanbu, il a annoncé que plus les ennemis insisteraient sur la poursuite de l'agression et du blocus contre le Yémen, plus notre volonté de le détruire augmenterait. Le président du Conseil politique suprême a salué la fermeté du peuple palestinien, soulignant la position claire et ferme de la République du Yémen sur la cause palestinienne. L'agression contre le Yémen et son blocus sont le résultat de sa position ferme et claire contre le régime d'occupation d'Israël qui doit se retirer immédiatement de la terre de Palestine, a-t-il indiqué. Conjointement à la parade militaire, la cérémonie de remise des diplômes de 2 brigades des provinces d'Ip, Taiz et Al-Zaleh s'est tenue avec le soutien du gouvernement de salut national du Yémen avec le défilé baptisé Al-Aqsa Al-Sharif dans la province d'Ip. Le défilé a eu lieu avec le soutien du Conseil politique suprême du Yémen et son objectif a été déclaré de faire face à d'éventuelles options militaires si le cessez-le-feu humanitaire ne réussit pas. Les forces yéménites ont piétiné les drapeaux américains et israéliens lors du défilé Al-Aqsa Al-Sharif. Malgré l'embargo naval et aérien, le Yémen a atteint des capacités fiables dans le domaine de la défense et de la puissance militaire et la construction de divers drones et missiles opérationnels est un exemple de ces succès. La ville de Kinshasa accueille du 17 au 18 août le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Le chef de l'État congolais présidera cette organisation sous-régionale pour l'exercice 2022-2023. C'est dans cette optique que Lazarus Chakwera, chef de l'État du Malawi et président sortant de cette organisation, s'est entretenu avec Félix Tshisekedi ce mardi 16 août à la Cité de l'Union africaine. Lazarus Chakwera a fait part à la presse de la mise sur pied dans les tout prochains jours d'une commission mixte en charge d'analyse pour la faisabilité d'un ambitieux projet entre le Malawi et la RDC. Il s'agit de la construction des voies routières et ferroviaires dans le but d'établir des échanges commerciaux entre la RDC et l'Afrique australe, particulièrement son pays. Ceci passera par la suppression des visas pour permettre l'intégration de deux peuples. Ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC est placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement des minéraux et des chaînes de valeur régionales pour une croissance économique résiliente ». Ce sommet se tient chaque année et réunit les chefs d'État et de gouvernement des 16 États membres de la SADC, à savoir Angola, Botswana, Comores, République démocratique du Congo, Eswatini, le Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, République unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a appelé lundi 15 août à Bamako la communauté africaine et internationale à soutenir le Mali dans sa lutte acharnée contre le terrorisme, soulignant la nécessité d'intensifier tous les efforts pour contrer ce fléau qui requiert des réponses globales. En tant que président de l'Union africaine et voisin, je suis venu apporter mon salut, ma solidarité au peuple malien et aux autorités de la transition, a indiqué le chef d'État sénégalais, cité par le communiqué appelant à l'accompagnement de la transition malienne. Des questions bilatérales, notamment d'ordre économique, ont été également au menu des échanges, selon la présidence. La visite du président sénégalais au Mali est la première depuis la prise du pouvoir par le président de la transition Assimi Goïta en mai 2021. Le président de la transition du Tchad, Mahamad Idriss Déby, a appelé mardi 16 août le Sénégal à l'appuyer pour les prochaines étapes de la transition. En visite d'amitié et de travail au Tchad depuis lundi soir, le président du Sénégal, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a eu un tête-à-tête mardi avec Mahamad Idriss Déby. Selon un communiqué de la présidence tchadienne, le général Mahamad Idriss Déby a saisi l'occasion pour demander l'appui du Sénégal pour aller au bout de la transition. Dans son discours prononcé lors de l'audience accordée au président de la République du Sénégal, le chef de la junte tchadienne a sollicité l'appui du président sénégalais pour la poursuite de l'accompagnement politique de l'Union africaine au processus de transition, mais également son soutien personnel pour être le catalyseur dans la mobilisation des ressources requises afin de parachever les étapes restantes de la transition en vue de déboucher sur un dénouement heureux, attendu, voulu et espéré de tous. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a appelé l'ensemble de groupes rebelles tchadiens qui n'ont pas encore signé l'accord de paix de Doha à rejoindre le dialogue national inclusif afin que les conclusions de cette rencontre prévue le 20 août soient les meilleures pour le Tchad, les meilleures pour l'Afrique et donner le maximum de chances de parvenir à une paix globale, inclusive et durable. L'Union africaine a annoncé dimanche 14 août l'envoi d'une délégation au Tchad ayant pour mission d'évaluer la situation de la transition. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Occident-Iran, un début d'accord. L'Union européenne confirme avoir reçu la réponse de l'Iran à un texte modifié proposé par l'Union visant à relancer l'accord nucléaire de 2015, affirmant que le bloc étudie la réponse avec les parties à l'accord et les États-Unis. Citant une source diplomatique souhaitant maintenir l'anonymat, la chaîne de télévision américaine CNN a annoncé que l'Iran demanderait une compensation si les États-Unis se retiraient à nouveau de l'accord sur le nucléaire. Nabila Masrali, porte-parole du chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui a coordonné les pourparlers entre l'Iran et le groupe de pays P4+1 dans la capitale autrichienne Vienne, a fait ses remarques lors d'un entretien avec l'IRNA ce mardi 16 août. Nous l'étudions et consultons les autres participants du plan global d'action conjoint et les États-Unis sur la voie à suivre, a-t-elle déclaré. Tard lundi 15 août, l'Iran a déclaré avoir fourni à l'Union européenne sa conclusion finale sur les pourparlers visant à relancer le plan global d'action conjoint, soulignant que c'est maintenant au tour des États-Unis de faire preuve de réalisme et de flexibilité s'ils veulent vraiment qu'un accord final soit trouvé. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a également déclaré le même jour que si les États-Unis montraient une réaction réaliste et flexible à l'offre de l'Iran, nous serions sur le point d'être d'accord, ajoutant « La partie américaine a accepté oralement deux propositions offertes par l'Iran ». Un conseiller de l'équipe de négociation iranienne a déclaré que les parties de négociation sont plus proches d'un accord final sur la relance de l'accord qu'elles n'ont jamais été. Je ne peux pas dire qu'il y aura un accord, mais nous sommes plus proches qu'avant, a déclaré Mohamed Maradi, qui est également vice-président pour les affaires internationales à l'Université de Téhéran, dans un post sur son compte Twitter, citant des propos qu'il a tenus lors d'une interview avec Al Jazeera. Dans sa réponse, a-t-il ajouté, l'Iran a exprimé ses inquiétudes, mais les problèmes restants ne sont pas très difficiles à résoudre. Ces préoccupations sont fondées sur les violations passées des États-Unis et de l'Union européenne, a tweeté Maradi. 4 jours de pourparlers à Vienne entre les représentants de l'Iran et les 5 autres parties du plan global d'action conjoint pour sauver l'accord ont abouti le 8 août avec un texte modifié sur la table. Le négociateur en chef de la Russie dans les pourparlers de Vienne, Mikhail Ulyanov, a déclaré mardi que la partie américaine devait répondre à la réponse de l'Iran à la proposition de l'Union européenne sur le retour des parties au plan global d'action conjoint, soulignant que la balle était désormais dans le camp américain. Ulyanov, qui est également le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, a déclaré à Sputnik que les parties pourraient parvenir à un accord au début de cette semaine. Les développements du mardi ont montré que cela peut arriver, sinon cette semaine, du moins la semaine prochaine, a-t-il indiqué. Il a également noté que l'Iran a exprimé sa volonté de parvenir à un accord avec le groupe des pays P4+1 à condition que les États-Unis acceptent 3 amendements. Le haut diplomate russe a souligné qu'en cas de réponse positive, une réunion des ministres des Affaires étrangères se tiendrait prochainement et qu'un accord serait conclu puis mis en œuvre. L'Iran et les autres parties au plan global d'action conjoint, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont entamé des pourparlers dans la capitale autrichienne Vienne en avril de l'année dernière. Alors que les parties ont noté des progrès dans plusieurs cycles de pourparlers, l'indécision dont a fait preuve Washington a empêché toute percée significative.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. Nous allons parler de la crise russo-ukrainienne, mais surtout ces derniers bombardements qui ont ciblé la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. Et des attaques ont également lieu le 11 août dernier. Suite à ces attaques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la communauté internationale, mais notamment les États-Unis, d'intervenir et de réagir et de faire sortir les Russes de cette région. Mais il semblerait, surtout depuis le début de la crise russo-ukrainienne, depuis ces derniers mois, que de moins en moins de personnes, et surtout d'Ukrainiens, font confiance au président Zelensky, mais surtout que le président ukrainien perd en crédibilité aussi bien dans la scène intérieure que sur la scène internationale. Dans le contexte actuel et surtout avec les aides militaires américaines vers l'Ukraine, cette crise qui continue, mais aussi des tensions entre les États-Unis et la Russie, que devrait-on s'attendre de cette crise dans les jours, les semaines et les mois à venir? On en parlera avec nos 2 invités, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un reportage préparé à ce sujet par mes collègues. On revient tout de suite après.
Le 8 août, la Crimée a été frappée par 7 explosions visiblement provoquées par des chasseurs US. Les Criméens commencent à en trouver les traces. La Russie s'en approchait directement des frontières US, question de vengeance. Des débris d'un missile supersonique 9M335 ont en effet été découverts sur une plage de la côte de Crimée par les habitants d'Alushta, apprend-on du site web militaire russe AviaPro. Il y a quelques heures, des habitants de la Crimée ont découvert des débris d'un missile supersonique dans la partie sud-est de la péninsule. Ce dernier serait tombé sur la côte d'Alushta, cependant, on ne sait toujours pas exactement comment il s'est retrouvé dans cette zone de la mer Noire. Sur les images vidéo présentées, on peut voir le moment de la détection de l'épave du missile Sparsonic 9M335. Ce dernier apparemment a été tiré par le système de missiles et de canons anti-aériens Panzer S. Néanmoins, les circonstances de l'apparition de débris d'un missile supersonique ici soulèvent jusqu'à présent de nombreuses questions, car ce dernier n'aurait pu être transporté sur la côte sud-est de la Crimée que depuis la partie orientale de la mer Noire ou directement lors du tir au système de défense aérienne déployé près du pont de Crimée. Suite aux attaques contre la base aérienne russe en Crimée, des avions militaires russes se sont approchés des frontières de l'espace aérien américain.
Alors, en effet, les États-Unis ont donné leur feu vert au plus grand programme d'assistance militaire à l'Ukraine, qui s'agit d'une aide militaire de plus $1 milliard, donc de véhicules, de blindés et d'aides militaires de tout genre à l'Ukraine. Alors, qu'en sera-t-il de cette crise dans les mois à venir? À quoi devrait-on s'attendre? On en débat avec nos deux invités, Fabrice Péor, expert pour l'ONG EOD, qui est avec nous depuis Moscou, donc la Russie, et Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles, la Belgique. Je vous dis bonjour, messieurs. Si vous me permettez, je commence avec vous, monsieur Péor, Fabrice Péor, qui est avec nous depuis Moscou. Alors, monsieur Béor, vous qui suivez de très près les évolutions et cette crise, où en est la crise en ce moment, à votre avis?
Nous sommes aujourd'hui dans une phase, particulière, puisque bon, les États-Unis, évidemment, et l'OTAN et tous les pays de l'Union européenne qui suivent, puisque ils suivent automatiquement, c'est l'OTAN qui commande. Hein. Et donc, nous sommes dans une situation où vous avez les États-Unis qui ont bien compris de toute façon que l'armée ukrainienne ne pouvait pas gagner, même stabiliser le front face à l'armée russe, puisque leur premier objectif, les objectifs des Américains, c'est finalement pas tellement de gagner la guerre en Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un pion dans le cadre de leur politique de confrontation avec la Russie. Et comme cela a été dit, ils se battront jusqu'au dernier soldat ukrainien. Non, aujourd'hui, ils savent. Comme toujours, lorsqu'ils ont perdu un affrontement, ils veulent le faire perdurer, ils veulent éviter évidemment que la paix s'installe, et surtout ils veulent faire saigner le plus possible leur ennemi, dans le cas précis, la Russie. Ce pourquoi ils livrent de plus en plus des armes, mais vous aurez remarqué tout de même, et les provocations, puisque on en parlera peut-être, mais les tirs ukrainiens sur la centrale nucléaire de la région de Zaporogé, c'est quand même une limite que les Américains, je pense, on commence à en voir le danger du seul fait que vous avez, face à des questions de journalistes, un représentant du Pentagone qui avait dit « nous livrons les armes, mais ce n'est pas nous qui désignons les cibles », ce qui est tout à fait un mensonge, puisque la plupart des armes qu'ils ont communiquées, transmises, on va dire, à l'armée ukrainienne et à tous ces groupes ukro-nazis, sont la plupart du temps manipulés par des contracteurs américains qui officiellement ne sont pas dans l'armée américaine. Ils ont juste posé leur démission et ils la reprendront lorsqu'ils reviendront aux États-Unis. Donc on comprend bien l'hypocrisie de la chose. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui évidemment, on est de plus en plus dans les provocations parce que l'opinion internationale, en particulier des pays occidentaux, commence à être lassée de cette propagande et surtout la guerre de la communication, c'est une chose, parce qu'ils vivent beaucoup à Kiev ou à Washington ou dans les médias de l'OTAN sur cette guerre de la communication. Mais ce n'est pas celle qui fait gagner les batailles sur le terrain. Et sur le terrain, c'est bien l'armée russe qui avance petit à petit selon la stratégie qui a été adoptée. Donc, ils vont de plus en plus vers les provocations. Les tirs possibles ou pas, puisqu'il n'y a pas véritablement encore, l'affaire est assez claire sur les tirs sur la Crimée. Il y a encore beaucoup d'éléments tout de même à vérifier. Il ne faut pas évidemment nier s'il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas extrêmement clair. Mais par contre, sur Zaporogé ou sur d'autres provocations qui sont en cours, il est évident qu'il va falloir s'attendre de plus en plus à ce genre de provocations. Mais Washington, juste évidemment pour se protéger, mais ils ne changeront pas de politique pour autant, se désolidarise publiquement, tout du moins, de ces tirs, on va dire, de la part des Ukrainiens, puisque même s'ils sont guidés, manipulés, puisqu'ils ont été mis au pouvoir par le coup d'État du Maïdan en 2014 par les Américains, il n'empêche qu'ils sont quand même pas 100% contrôlables, surtout avec tous les groupes ukro-nazis qui sont vraiment dans une politique de la terre brûlée.
Merci pour vos explications. Restez avec nous, Monsieur Béor. Alors, Luc Michel, comme vient de dire Monsieur Béor, les États-Unis se désolidarisent, surtout dans certaines attaques et tirs lancés par les Ukrainiens, dans cette crise. D'un autre côté, nous savons bien que les États-Unis sont impliqués dans une guerre, enfin pas une guerre encore, mais des désaccords entre la Chine et Taïwan. Et donc, ils s'impliquent petit à petit dans cette affaire également. Les États-Unis sont également impliqués dans plusieurs autres dossiers et affaires dans le Moyen-Orient. À votre avis, est-ce que tout ceci pourrait mener à ce que les États-Unis délaissent petit à petit Zelensky dans cette crise et que, en fin de compte, Volodymyr Zelensky se trouve seul et délaissé par ses soi-disant alliés dans cette crise?
Tout d'abord, bonjour à vous et à votre équipe. Et bonjour surtout à Fabrice. Nous sommes un peu en famille puisque Fabrice représente Théo Trochard. Et moi, je suis... il faut comprendre quelque chose, c'est que les Américains ont rencontré une partie de leur but de guerre en Ukraine. Ils ont creusé un fossé entre les économies ouest-européennes et la Russie, et ils ont plongé la Russie dans un conflit militaire long avec l'Ukraine. Mais évidemment, peut-être des États-Unis, il y a eu un désaccord entre les différents réseaux. Et à côté de ça, il y a évidemment la perte de crédibilité de Volodymyr Zelensky. Il y a un livre qui est sorti par un journaliste américain la semaine précédente où on montre la corruption de Zelensky, les comptes offshore, les Panama Papers, etc. Il est accusé avec son épouse d'avoir fait des bénéfices de plus $1 milliard sur le compte de la guerre. Et on commence à revoir une partie des armes américaines revendues en Afrique notamment. Mais la deuxième chose, évidemment, les Américains ont fait une erreur stratégique profonde. Ils ont choisi de mener la guerre sur deux fronts. Le front de mer Noire où la Russie est l'adversaire immédiat, mais deuxièmement la mer de Chine où la Chine est l'adversaire prioritaire. Ce n'est pas valable et une partie de l'establishment américain voudrait se consacrer à la Chine. Il y avait à la tête des États-Unis, et ça a été tel quel très visible lors du sommet de Davos, il y a les réseaux qui sont derrière Kissinger, qui veulent renégocier avec la Russie. Il y a les réseaux qui sont derrière George Soros, qui veulent la confrontation avec la Russie. Ce qui est intéressant de suivre, c'est l'affaire du rapport d'Amnesty International qui accuse l'armée ukrainienne de se dissimuler derrière la population civile, notamment dans les écoles et les hôpitaux, ce que nous n'avons jamais cessé de dire depuis les premiers jours de l'opération spéciale. Il y a actuellement une espèce de guerre civile au sein des réseaux de George Soros entre ceux qui défendent Amnesty International et qui veulent évidemment mettre, comme on dit, de l'eau dans leur vin, et ceux qui continuent la ligne pro-russe. C'est intéressant à suivre, évidemment, mais il est bien certain que pour les Américains, s'ils veulent se confronter à la Chine, ils doivent absolument quitter le territoire d'Europe centrale, d'autant plus qu'en Europe même, les Européens commencent à manifester une extrême lassitude. Il y a une lassitude de la population qui est face à la crise économique qui arrive seulement, les pénuries d'essence, de gaz et d'électricité, mais aussi la présence de millions de réfugiés ukrainiens dont le comportement est très dommageable pour les populations européennes. Par exemple, alors que l'on conteste l'aide sociale aux Français ou aux Belges, un réfugié ukrainien a 1 250 € d'aide sociale par mois, plus 250 € par enfant. Tout cela est refusé par la population. Et maintenant, évidemment, il y a une partie des élites européennes, militaires, industrielles, pétroliers, etc., qui ne veut plus de la confrontation avec la Russie. En particulier, il faut suivre l'affaire du chancelier Schröder. Celui-ci a été pénalisé par le Bundestag allemand et il est en train d'organiser la contre-offensive en attaquant en justice les parlementaires russes. Donc, évidemment, il y a une tendance des Américains à se dégager de la crise.
Mais d'un autre côté, Fabrice Béor, cette aide militaire, cette énième aide militaire américaine, qui s'élève jusqu'à $1 milliard de munitions à l'Ukraine dans la conjoncture actuelle, avec ce qui se passe sur le terrain, ne contribuerait-elle pas à la dégradation de la situation, M. Béor?
D'un point de vue militaire, non. Ça fait peut-être les titres des journaux, des médias de l'OTAN, des médias occidentaux, sans plus que ça. Comme je vous l'ai dit, ils sont, depuis le début, en particulier la junte de Kiev, puisque leur faiblesse évidemment structurelle, c'est leur armée. Je rappelle que ils vont prolonger l'état d'urgence et d'ailleurs la conscription, c'est-à-dire qu'ils vont faire la chasse aux Ukrainiens qui ne veulent pas aller se battre, même avec qu'une solde. Et grosso modo, ils ont peur de ne pas payer les soldats. Donc, c'est-à-dire que s'ils ne payent pas les soldats, ils savent que les soldats ne vont pas se battre. Donc, vous voyez, le patriotisme, il est sonnant et trébuchant. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de soutien populaire en réalité, à part dans quelques régions de l'Ouest, qui est l'origine, en fait, de ce qu'on peut appeler le cancer bendérite. Mais vous avez, en réalité, une situation militaire sur le terrain qui est en faveur de la Russie. Vous avez souvent toujours le discours, rappelez le discours au tout début, la Russie n'a que trois jours de missiles Zircon, ils n'ont plus d'obus, ils vont bientôt mourir de faim. Enfin bon, on avait des choses assez ridicules qui pouvaient fonctionner peut-être au tout début dans les masses un peu naïves occidentales qui prennent à manger des médias mainstream, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, c'est que les Russes avancent petit à petit, c'est une bataille d'artillerie, c'est on tire, on détruit les positions, on avance. S'il y a quelque chose qui résiste, on fait marche arrière, on tire, on avance. Alors évidemment, c'est lent, mais c'est efficace. Et le reste n'est que de la guerre de communication. Ils vont tirer à droite, ils vont tirer à gauche. Ils font du chantage. Le vrai problème et le vrai danger, c'est que cette junte de Kiev, quand au début Vladimir Poutine parlait de dénazification, certains disaient ouais c'est l'exagération de la propagande, même certains pro-russes disaient c'est exagéré, ils sont pas tous nazis, etc. Évidemment tous les Ukrainiens ne sont pas nazis, mais la structure du pouvoir, les groupes majoritairement combatifs au sein des forces armées ukrainiennes sont des groupes ukro-nazis, parce qu'on a parlé d'Azov, mais il y en a des dizaines et des dizaines de groupes comme ça, et encore plus pire d'ailleurs. Donc on est dans une situation où en fait ces gens-là, qui considèrent tous les gens qui ne parlent pas ukrainien comme des occupants, c'est-à-dire des gens qui doivent être exclus du territoire de ce qu'ils considèrent comme leur pays, et ils peuvent être donc éliminés. C'est pourquoi ils tirent sur les civils. Ils ne les considèrent pas comme leurs compatriotes. Donc ils sont prêts à n'importe quelle provocation. Et vous avez le chantage de la junte de Kiev sur la centrale nucléaire de Zaporogé. Et c'est là où on voit... Et c'est là où on voit en fait le danger, c'est que même les institutions internationales, si imperfectibles, si on va dire contestables qu'elles soient, telles que l'ONU, qui est un machin, comme disait le général de Gaulle, a démontré aujourd'hui qu'il est totalement aux mains des Occidentaux, puisque lorsque vous avez les représentants, non seulement de l'Agence d'énergie atomique, mais également le secrétaire général de l'ONU, qui fait semblant de ne pas savoir que ce sont les Ukrainiens qui tirent, ça s'appelle de la complicité. Et lorsque vous tirez sur une centrale nucléaire, ce n'est pas un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Donc le danger vient en fait... effectivement, de ces extrémistes nazis qui ont été soutenus depuis 2014, puisque c'est eux qui ont fait le coup d'État en 2014, et qui sont aujourd'hui dans tous les rouages de l'État et dans tous les rouages de l'armée, qui, sachant très bien qu'ils sont en train de perdre la guerre et que, par la suite, leur seul moyen de survie, c'est de quitter le territoire de l'Ukraine parce qu'ils seront pourchassés par la Russie, qui met en place aujourd'hui un tribunal international et qui va juger tous ces gens-là, eh bien, vous avez effectivement des gens qui ont peut-être aujourd'hui plus rien à perdre, surtout avec l'idéologie extrémiste qui véhicule et qui est supportée par également la partie extrémiste des États-Unis qui veut en découdre avec la Russie. Le danger vient en fait de ces extrémistes occidentaux américains qui se servent de hier au Proche-Orient du terrorisme djihadiste et en Europe avec nos amis, évidemment, les nazis démocrates du Maïdan. Donc le danger, il est là. Mais en réalité, sur le terrain, vous savez, c'est qu'une question de temps. C'est d'abord le Donbass qui sera libéré. Et après, vous avez en face, en fait, il n'y aura déjà plus de l'armée ukrainienne qui sera réduite. En général, par rapport aux informations qu'on a pu avoir au début de la guerre, il ne restera plus qu'un tiers de l'armée qui existait auparavant, avec en plus du personnel qui n'est pas si formé que ça, puisque c'est des gens qui ont été formés 15 jours et qu'on envoie en fait à la boucherie. Et vous avez en fait des plaines. Donc les gens qui pensent que la guerre va être longue, la paix va être longue, est instaurée. Mais la guerre, croyez-moi, qu'elle est déjà gagnée. C'est juste une question de temps aujourd'hui, et les provocations américaines, c'est peut-être le seul danger qu'il faut bien cadrer. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez une communication de la part, et je terminerai là-dessus, de la part du Kremlin et des autorités diplomatiques russes sur justement via l'ONU et via les médias la mise en lumière justement de ces provocations nucléaires et faire appel peut-être à quelques personnes qui sont encore en Occident et en Europe et un petit peu de jugeote et de bon sens.
Merci pour vos explications, Fabrice Béraud. Restez avec nous. Mais Monsieur Michel, en parallèle à la question militaire et toutes les explications que Fabrice Béraud vient de nous dire, il y a aussi une question économique, la question de l'énergie. Les pays européens sont en manque d'énergie, surtout l'hiver arrive. Donc il y a de gros manques et de gros problèmes en ce qui concerne la question de l'énergie et les sanctions contre la Russie et toutes ces questions. À votre avis, en ce qui concerne ce sujet, cet aspect de la crise russo-ukrainienne, vers où se dirigeront-ils les pays européens dans les mois à venir ?
Avant de vous répondre, je tiens à donner une précision sur la soi-disant aide militaire des États-Unis à l'Ukraine. Ce ne sont pas des dons. C'est un mécanisme qui a été mis au point en 1940 pour aider la Grande-Bretagne. On appelle ça le prêt-bail. C'est-à-dire que l'Ukraine va mettre des décennies à rembourser. Une partie de l'argent a été évacuée par la corruption, notamment par celle des époux des Zelensky. Mais la Grande-Bretagne, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a perdu son empire à cause de ces mécanismes-là. Donc c'est de l'argent qu'il faudra rentrer. L'Ukraine est déjà en faillite virtuelle et elle est en défaut de paiement. Les agences de notation d'ailleurs n'arrêtent pas de dégrader la note de l'Ukraine. Et bien entendu, la véritable question qui commence à se poser aux États-Unis d'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis rétropédale, c'est qu'ils commencent à comprendre qu'ils ne seront jamais remboursés de ces prêts-bails. Voilà la première chose que je veux dire. Deuxièmement, les États-Unis ont engagé contre la Russie une guerre économique faite de trois volets, le sanction, la guerre du gaz et la guerre du pétrole, la guerre des hydrocarbures. Donc, eh bien, cette guerre-là, parce que Vladimir Poutine s'y est préparé depuis 2014, il faut oublier que la Russie n'est pas sous sanction depuis 4 mois, mais elle est sous sanction depuis le dossier de Crimée et du Donbass en printemps 2014. Poutine s'est préparé à l'affaire et il est en train de gagner aussi bien la guerre des sanctions, qui est un boomerang qui se retourne contre les économies européennes, qui plonge dans la crise économique et dans la récession, en particulier en Allemagne. Deuxièmement, il est en train de gagner la guerre du gaz et il est en train de gagner la guerre du pétrole. Il est en train de la gagner d'ailleurs avec l'aide de l'Iran, je tiens à le souligner. Les Américains disent que l'Iran est l'épée géopolitique de la Russie. C'est-à-dire que l'Iran a accepté de ne pas fournir du gaz en Europe et de laisser la Russie dominer le marché européen. C'est-à-dire que l'Iran a choisi de ne pas encaisser des pétrodollars mais de soutenir stratégiquement son allié de la Russie, compte évidemment des avantages stratégiques. Voilà ce qui est en train de se passer. L'Ukraine, évidemment, elle est en train d'être complètement ruinée, d'autant plus que la Russie vient d'interrompre le passage du gaz par les oléoducs ukrainiens et le transfert du pétrole par les oléoducs ukrainiens. Dmitri Medvedev a prévenu que chaque attaque économique dorénavant se paierait cash. L'ancien président russe, c'est cela qu'il faut constater. Et bien entendu, ça explique évidemment la panique des milieux européens, mais également de certains milieux américains, parce que pour tous les partisans du business, c'est bien de prêter de l'argent à l'Ukraine, mais il faudrait qu'elle puisse rembourser. Or, ça n'arrivera jamais. Il ne faut pas se faire d'illusions. D'autant plus que l'Ukraine a développé un système d'espèces de bons de guerre qui ne sera à aucun prix, à aucun terme remboursé.
Merci à vous, Luc Michel. Fabrice Béraud, nous avons près de 2 minutes devant nous. Le mot de la fin, à vous.
Beaucoup dans les médias occidentaux sont toujours en train de surtout les médias français. Heureusement que je ne les regarde pas tout le temps, mais lorsque je les regarde, on est vraiment Big Brother 1984, la vérité inversée. On reproche aux Russes ce que font les Ukrainiens avec des montages vidéo qui sont assez ridicules et qu'il suffit de regarder avec un œil attentif pour s'apercevoir de la grossièreté du montage et de la construction, on va dire, du discours. Mais la seule question, c'est que l'Ukraine, dans son obsession sur la Crimée, aujourd'hui est en train de se détruire elle-même. Nous avons donc aujourd'hui des gens qui parlent de l'Ukraine, qui parlent de la reconstruction de l'Ukraine, mais ma question, c'est quelle Ukraine ? Parce que aujourd'hui, à minima, le Donbass et la République populaire de Donetsk et de Lugansk, ainsi que l'oblast, c'est-à-dire la région de Zaporogé et de Kherson, vont rejoindre la Fédération de Russie. C'est une évidence. Il est fort possible que Kharkov, et il est fort possible jusqu'à Odessa, ça le soit également. Je dis pourquoi possible, je terminerai là-dessus, parce que la Russie a engagé l'opération spéciale militaire parce qu'il n'y avait plus de solution diplomatique. Donc c'est la continuation de l'action politique face à un blocage vis-à-vis du bloc occidental qui était dans la confrontation et non pas dans la recherche du compromis. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de compromis, tant qu'il n'y aura pas d'accord, et la Russie aujourd'hui, les accords, c'est accepter son ultimatum, il n'y a pas de négociation, c'est très clair maintenant, continuera à prendre des territoires, et moi je dirais libérer des territoires qui correspondent à la Novorossiya d'hier, à ce qui était un territoire russe et qui le redeviendra, et vous verrez, et on le voit déjà, même CNN, et je terminerai là-dessus, montre un reportage, vous voyez les gens qui étaient passés du côté ukrainien, qui repassent du côté russe, et c'est bizarre parce qu'aucun du côté russe passe du côté ukrainien, l'Ukraine n'existe plus. C'est quelque chose qui est terminé. Il va falloir que les Occidentaux, et en particulier les Européens, le comprennent, parce que leur intérêt n'est pas de suivre les États-Unis. Et je pense que cet hiver va faire réfléchir plus d'une personne. En tout cas, j'espère que le bon sens reviendra et que l'idéologisme de certains et le suivisme, c'est-à-dire la soumission aux États-Unis, pourront être tout du moins dégagés. Et en cela, j'espère simplement que les milieux du business européen feront pression ou alors lâcheront les hommes politiques qui, jusqu'à présent, les ont soutenus puisque leurs intérêts aujourd'hui sont divergents.
Fabrice Péor, expert pour l'ONG EOD, Luc Michel, géopoliticien, était avec nous pour ce débat. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous souhaite très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
De l'euro et la libération des énergies françaises. La fin de l'euro est prévisible. Bien entendu, les dirigeants de l'Union européenne font planer la menace d'un passage à l'euro exclusivement numérique. Ultime tentative pour sauver une monnaie mal en point. Mais l'Union européenne ne se remettra pas de la crise provoquée par le retour des démocrates au pouvoir à Washington en 2021 avec son quantitative easing démentiel, puis la guerre d'Ukraine. Peut-être les dirigeants français sont-ils tétanisés à la perspective d'un éclatement de la zone euro. Et pourtant, le retour au franc sera libérateur pour le pays, lui permettant de purger un demi-siècle d'erreurs politiques. On peut imaginer tous les modèles économétriques et avoir un usage immodéré des mathématiques financières déclencher régulièrement des guerres pour écraser ceux qui remettent en cause l'ordre monétaire mondial, faire marcher la planche à billets combinée aux délocalisations d'emplois. Bref, pratique activement la guerre des monnaies. Il est pourtant un moment où le réel vous rattrape. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 2016. Génie politique sous le masque d'un provocateur un peu grossier, Donald Trump a compris avant les autres la fin du règne du dollar. Et il a travaillé à réindustrialiser les États-Unis pour fonder à nouveau la monnaie américaine sur des réalités. Cependant, pour y arriver, il ne fallait pas seulement affronter la Chine et mettre en cause le libre-échange. Il fallait servir toute une oligarchie droguée au quantitative easing. À vrai dire, c'est le cartel des producteurs qui s'est révolté. L'alliance des grands acteurs bancaires et financiers américains et du Parti communiste chinois a tout fait pour mobiliser les dealers et tous les sévrés se trouvant dans les affres de la désintoxication. Ce que Joe Biden a lui-même présenté comme la plus gigantesque fraude électorale de tous les temps a permis de se débarrasser de Donald Trump, non sans mal, entre novembre 2020 et janvier 2021. Et la fuite en avant du quantitative easing a repris dans des proportions encore jamais atteintes, comme l'activité économique mondiale avait diminué du fait du Covid, les effets inflationnistes ont été immédiats. Ils étaient antérieurs d'au moins 6 mois à la guerre d'Ukraine, qui a juste pour conséquence d'aggraver encore cette inflation du fait de la hausse des prix de l'énergie. Dans les années 1960, la création d'une monnaie européenne avait été imaginée comme un moyen de sortir de la crise du dollar qui devait aboutir à la fin du système de Bretton Woods. En réalité, l'euro a été, de la part du monde dirigeant français, le prétexte à une douce imposture. Il s'agissait de discipliner budgétairement la société française. Jamais le pays n'a été autant endetté. Il s'agissait de converger avec le modèle allemand. Jamais le pays n'a autant divergé du voisin, en témoigne en particulier la désindustrialisation française, et il s'agissait de créer une puissance européenne. Mais l'Union européenne n'est jamais sortie de la faiblesse structurelle qu'impliquait le traité de Maastricht. Absence de politique de change actif face au dollar. Alignement de la politique étrangère de l'ensemble sur l'OTAN. La crise de l'euro est inéluctable pour au moins 3 raisons. La monnaie unique européenne a été construite sur la fausse prémisse selon laquelle l'unification politique se ferait par la monnaie. Or, ce sont toujours les unions politiques qui font les unités monétaires et par ses effets dissolvants, la crise ukrainienne va encore accroître les divergences entre membres de la zone euro. La réussite de l'euro a tenu à la construction de la monnaie autour de la division germano-centrique du travail en Europe. Utilisation de la main-d'œuvre à bas salaire de l'Europe centrale et orientale, absorption de 30% des exportations allemandes par la zone euro et de 40% par l'Union européenne. Et enfin, la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis conjuguée à la récession européenne va conduire la BCE à relever ses taux sans pour autant éviter une augmentation du différentiel de taux entre les pays les moins endettés et les plus endettés de la zone. Évidemment, le passage à l'euro numérique sera présenté comme le nouveau moyen de prolonger la vie de la monnaie européenne. La fin du papier-monnaie et la centralisation engendrée par l'euro digital seront souhaitées par la BCE et la Commission européenne pour mettre en place un régime de contrôle absolu des comptes bancaires et de revenus universels dans la logique du grand reset de Davos. Cependant, la crise de l'économie allemande, la montée des prix de l'énergie, la chute de l'euro sur les marchés, les tensions sociales à venir, la démonétisation des dirigeants européens vus dans une grande partie du monde comme de simples caniches de Washington, tout cela conduit à penser que le moment favorable pour l'introduction de l'euro numérique est passé. La fin de la monnaie européenne est inéluctable. L'euro ne résistera pas à la conjonction de l'esprit de prédation états-unien pour sauver le dollar, de l'émergence d'un multipolarisme monétaire, rouble, yuan, roupie, dinar, etc., et des crypto-monnaies. Alors oui, il y aura un premier effet profondément libérateur de la fin de l'euro. Elle va profondément déstabiliser une classe dirigeante qui a tout misé sur la monnaie unique depuis 30 ans. Pour refonder la nation française, on a besoin d'un moment révolutionnaire, d'un changement de personnel dirigeant. L'implosion de l'euro le procurera tant il est vrai que toute la classe politique. la monnaie unique européenne est le verrou de la politique française. Il faut faire sauter ce verrou. Il s'agit de rendre à la France son optimisme. Or, l'euro est un facteur de profond pessimisme, de déclin et de fatalisme pour le pays. On doit retrouver l'envie d'inventer, de créer, d'investir, d'avoir des enfants et de les éduquer, de bâtir pour eux, et un jour avec eux, une France qui rayonne à nouveau. Le deuxième effet libérateur viendra de ce que l'on ne voit pas comment résoudre l'endettement français dans le cadre de l'euro. La France doit retrouver la maîtrise de son taux de change pour mener une politique monétaire propice au désendettement, à l'investissement et à la réindustrialisation du pays. Il est nécessaire qu'émerge une nouvelle élite politique qui ne soit pas comprise par l'Europe.